Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le vendredi 10 décembre.
Et nous allons faire le plein d'infos, de musique et de bonne humeur jusqu'à 6h30. À la une ce matin, Julien.
Réforme de Schengen, défense européenne, les priorités d'Emmanuel Macron pour la présidence française de l'UE. La visite aujourd'hui à Paris du nouveau chancelier allemand et puis la taxe foncière qui va flamber l'année prochaine. Ça va, Omblin ? Vous avez une petite mine ce matin.
Oui, bon, c'est la fin de l'année, on est un peu tous fatigués, c'est vrai, vous aussi, hein, je vous ai connu un petit peu plus fringant.
Oui, je crois qu'on est tous effectivement fatigué, c'est peut-être aussi votre cas, vous qui nous écoutez. Et ce n'est pas forcément dû à l'heure matinale.
Oui, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on vit à l'heure du Covid. On en est à 3 confinements, c'est 5 vagues de contamination. Et c'est ça, on a peur pour notre travail. 3 doses, peut-être 4, peut-être 5. Et ajoutez à tout ça le stress des fêtes de fin d'année. Voilà le cocktail explosif qui peut se répercuter sur notre sommeil. Mais il existe des moyens de lutter. Oui, il y a un espoir. Quelles sont les clés pour passer à nouveau de bonnes nuits et pourquoi le sommeil est si important en pleine pandémie ? Nous poserons ces questions à 6h moins le quart au docteur Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences. Pour retrouver de l'énergie, Julien, heureusement, il reste la Formule 1.
Oui, on l'a longtemps pointé du doigt pour son ennui supposé, ses longues périodes d'hégémonie. Il y a eu le règne de Michael Schumacher avec Ferrari, celui de Sébastien Vettel sur Red Bull, puis Mercedes emmené par Lewis Hamilton, un septuple champion du monde en titre qui, pour une fois, est challengé, pour ne pas dire bousculé par un jeune prodige, le bouillonnant Max Verstappen.
Duel électrique depuis le début de la saison qui se conclut ce week-end avec un suspense total.
Et ce scénario de rêve, deux pilotes survoltés qui ont exactement le même nombre de points au classement, du jamais vu depuis près de 50 ans. Le titre mondial va donc se jouer lors de cet ultime Grand Prix. Il se disputera à Abu Dhabi, où l'on retrouvera l'homme qui nous fait vivre la Formule 1 sur Canal+, Julien Febreau, qui sera notre invité à 6h10. Et puis juste après, on terminera avec votre partition, Omblin.
Une voix éraillée, rugueuse, comme la musique soul du sud des États-Unis, charnel et gospel. La partition d'Otis Redding, disparue à l'âge de 26 ans le 10 décembre 1967. Rendez-vous à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Temps très agité avec des vigilances.
Ouh là 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 là, c'est très agité. On a 12 départements en vigilance. On va passer une journée très compliquée. Dans les Alpes, l'Ain est en vigilance. Neige, verglas, soyez très prudents sur les routes. La Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère en vigilance orange, avalanche. Dans le sud-ouest, là c'est compliqué aussi. On a les Landes et le Gers en vigilance crue. Il a plu beaucoup et il va pleuvoir encore beaucoup dans le sud-ouest aujourd'hui. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, vigilance orange, pluie, inondation, crue, avalanche. La Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales et Andorre en vigilance orange, avalanche et pluie, inondation. Alors dans le ciel, là on a un temps très perturbé en ce vendredi sur quasiment toutes les régions. On a de la pluie aujourd'hui, de la neige en plaine dans le nord-est ce matin. Sur le quart sud-ouest, on a encore des pluies très abondantes aujourd'hui, des pluies très soutenues avec de la neige des 1200 mètres dans les Pyrénées. Sur les Pays de la Loire, la Bretagne, là on a un temps un petit peu plus calme avec quelques petites averses. Cet après-midi, c'est encore très humide partout. De la neige à basse altitude sur tous les reliefs. Des averses sur une grande partie du pays. Et puis, le positif de ce jour, sur les Pays de la Loire, le pourtour méditerranéen, la Normandie, le Cotentin, la région parisienne, le retour d'un temps sec avec des éclaircies cet après-midi. Mais ça va être compliqué pour beaucoup de monde.
C'est noté. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Jamais le général de Gaulle, jamais le général de Gaulle n'aurait autorisé le Conseil constitutionnel qu'il étende ses pouvoirs à ce
débat point. Plus qu'animé hier soir entre Éric Zemmour et le ministre Bruno Le Maire. Il a été question d'Europe, d'économie et sans surprise d'identité. Que retenir de ce duel ? Réponse dès le début de ce journal. Quelle priorité pour la France à la présidence de l'UE ? Emmanuel Macron a dévoilé hier les grands axes et prévoit la tenue d'un sommet exceptionnel des 27. Objectif : définir ensemble le nouveau modèle de croissance européen. Et puis le monde sportif sous le choc après le placement en garde à vue hier de Yannick Agnel. L'ancien nageur, double champion olympique et soupçonné de viol sur mineur.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal, c'est avec Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Échange houleux, très animé pour le premier débat télévisé hier soir sur France 2 d'Éric Zemmour en tant que candidat à la présidentielle face à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Beaucoup de sujets abordés comme le déclin de la France, le nucléaire ou encore les questions d'immigration et d'identité. Victor Chabert a suivi ce duel pour Europe 1.
En quelques minutes, le ton est donné.
Vous enfoncez les portes ouvertes.
Ah, j'enfonce les portes ouvertes parce que ça vous déplaît. Je donne des chiffres que vous ne donnez pas.
Deux visions de la France s'affrontent pour le ministre optimiste, pour le candidat décliniste. Très vite, la question européenne vient au centre des échanges.
Monsieur le maire est l'employé de la Commission de Bruxelles. Il doit négocier en permanence.
Vous laissez
dire
ça ?
Il ne peut pas vraiment décider.
Est-ce qu'un ministre de l'économie est employé de la Commission ?
Vous êtes l'employé de la Commission de Bruxelles ?
Je laisse M. Zemmour s'enfoncer tranquillement.
Mais oui, bien sûr.
Éric Zemmour propose ensuite une baisse de la CSG sur les bas salaires, mesure inconstitutionnelle, précise Bruno Le Maire. Le candidat approuve et veut remettre en cause le pouvoir du Conseil constitutionnel.
Jamais le général de Gaulle n'aurait autorisé le Conseil constitutionnel qu'il étende ses pouvoirs à ce point. Je vous rappelle que
le général de Gaulle avait lui-même dit qu'à 70 ans, il n'avait pas l'âge de devenir dictateur.
Mais c'était pas un dictateur.
Je pense qu'à 63 ans, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir.
Bah voyons.
Bruno Le Maire convainc les anti-Zemmour, Éric Zemmour galvanise ses partisans, martèle ses idées et insiste, s'il est candidat, c'est pour que la France reste la France.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1, Éric Zemmour qui dépeint Emmanuel Macron comme un fédéraliste chimérique qui veut noyer la nation française dans l'Europe.
Et c'est d'ailleurs dans 3 semaines que la France prend la présidence de l'Union européenne.
Oui, Emmanuel Macron a donc détaillé son projet hier entre relance économique, régulation des géants du numérique et harmonisation des salaires minimums. L'organisation d'un sommet exceptionnel des 27 est aussi prévue, un peu sur le modèle du plan France 2030. L'objectif, Carole Ferry, c'est de définir le nouveau modèle de croissance européen.
Oui, Emmanuel Macron a déjà présenté son projet France 2030. Eh bien, ce sommet ressemble sur le même modèle à une Europe 2030. L'objectif, c'est de réfléchir à 27, à comment faire de l'Europe un grand continent de l'innovation et de la création, comment retrouver de la souveraineté dans les filières qui se sont révélées défaillantes pendant cette crise du Covid, comment devenir en fait plus compétitif face à des géants comme la Chine ou les États-Unis. Un État n'est pas la bonne échelle, estime Emmanuel Macron. Pour rattraper notre retard, il faut selon lui développer tous ensemble les filières d'avenir, l'hydrogène, les semi-conducteurs, la santé ou encore le numérique. Le chef de l'État veut que l'Europe choisisse ses besoins, les chiffres et puis décide ensuite de comment les financer, sans doute en revoyant les règles budgétaires du monde d'avant. Ce sommet sera organisé un mois pile avant la présidentielle, une belle vitrine pour montrer cette ambition à grande échelle, mais qui nécessitera des consensus à 27 et là, le pari est un peu plus risqué.
Merci Carole Ferry.
Vous pouvez compter sur nous, répond le nouveau gouvernement allemand après cette prise de parole. Et ça tombe bien, Olaf Scholz, tout fraîchement élu chancelier, est reçu à l'Elysée aujourd'hui.
Le nouveau dirigeant allemand connaît bien Bruno Le Maire et s'il n'est pas particulièrement francophile, il sait déjà comment fonctionne la relation Berlin-Paris. Notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl.
Faire son premier déplacement officiel à Paris, pour Olaf Scholz, c'est avant tout une bonne tradition. Le nouveau chancelier a hérité des années Merkel un grand pragmatisme. Il sait que la relation franco-allemande est inévitable pour faire avancer l'Europe vers plus d'intégration et il partage cette ambition avec Emmanuel Macron. En 2018, déjà dans un discours référence prononcé à l'université Humboldt de Berlin, il avait salué en français les propositions formulées par le président vers plus d'autonomie et de souveraineté européenne.
Merci Monsieur Macron, merci Emmanuel.
Le contrat signé par sa coalition prévoit même qu'on puisse toucher aux traités européens. Et sur ce point, avec l'arrivée d'Olaf Scholz à la chancellerie, la France gagne incontestablement un allié de poids. Au printemps 2020, c'est d'ailleurs déjà l'engagement personnel d'Olaf Scholz qui a fait bouger les lignes quand il s'est agi de faire accepter à Angela Merkel le principe d'un endettement commun européen. Après, comme toujours, c'est à l'épreuve des crises qu'on verra si l'Allemagne, après Merkel, est un partenaire aussi fiable que ces dernières années. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Après l'OMS et la Maison-Blanche, l'Agence européenne du médicament tente de calmer à son tour les inquiétudes au sujet du nouveau variant.
Oui, un Omicron semble certes plus contagieux, mais moins dangereux. La réaction du professeur Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble.
La déclaration de l'Agence européenne est plutôt rassurante, en ce sens qu'il semblerait que la contagion plus importante ne soit pas associé à une virulence plus importante du virus. En clair, plus contagieux, mais pas forcément plus grave. Si on va jusqu'à la caricature, on pourrait dire que tant mieux, parce que plus contagieux, ça veut dire que le Omicron va prendre la place du Delta, mais en étant moins grave. Et donc c'est tout bénéfique pour l'espèce humaine, ce remplacement.
Des propos recueillis par Céline Géraud.
100 000 exploitations agricoles ont disparu au cours de la dernière décennie, c'est une sur cinq.
Oui, le résultat d'un recensement du ministère de l'Agriculture publié ce matin. Pour sauver la profession, les jeunes paysans reviennent à l'agriculture conventionnelle. Pas bio, mais pas intensive non plus. À Maxent, en Ille-et-Vilaine, l'un d'eux vient de reprendre une exploitation. Le reportage de notre correspondante dans l'Ouest, Sandrine Prioul.
Moi, je suis content de ce que je produis, j'en suis fier.
Ça fait 15 mois que le jeune Aubry Illion est fier de sortir 130 génisses à viande de sa nouvelle exploitation, reprise à deux frères, agriculteurs à côté de la forêt de Brocélian.
On est éleveur, mais on est aussi gestionnaire d'une entreprise. Donc, l'idée surtout de rentabiliser au mieux le bâtiment, de se dégager un salaire et de ne pas travailler pour la gloire.
7 jours sur 7, mais 3 semaines de vacances par an. Un début studieux pour ce fils d'agriculteur de 29 ans, diplôme de gestion agricole en poche, après une transition de 6 mois.
Les gens comme moi qui sont en conventionnel, on essaie davantage de communiquer sur notre façon de faire. C'est sûr que le système conventionnel n'est plus du tout le même qu'il y a 20 ans. Le bien-être animal, c'est notre priorité. Même par rapport aux cultures, on utilise beaucoup moins de pesticides et de produits phytosanitaires. Donc c'est un conventionnel raisonné.
Une agriculture raisonnée, plus moderne, pour se donner l'impression qu'il a aussi une vie privée. L'éleveur vit pour l'instant à 5 km de son exploitation. Les relèves qui devront comme ça être nombreuses dans les années à venir, où un agriculteur sur deux pourrait ne pas être remplacé. Maxent, Sandrine Prioul, Europe 1.
Et Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, sera notre invité ce matin sur Europe 1 à 8h15.
Yannick Agnel, mis en cause dans une affaire de viol sur mineur.
Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'ancien nageur, double champion olympique et champion du monde de natation. Très apprécié dans le monde du sport, il a été interpellé hier midi à Paris et placé en garde à vue à Mulhouse, Zoé Palier.
Les faits remonteraient à 2016. La victime présumée avait alors 13 ans. Elle s'entraînait aux côtés de Yannick Agnel dans les bassins du Mulhouse Club Natation. Elle a finalement déposé plainte cet été. Depuis, les policiers ont recueilli des témoignages, auditionné plusieurs nageurs, jusqu'à l'interpellation hier du champion olympique. La nouvelle est un choc pour Francis Luis. Il était président de la Fédération française de natation à l'époque des faits.
Heureusement que je viens de m'asseoir parce que je suis troublé. On peut avoir un certain nombre de soupçons sur un certain nombre de personnes, mais là, si vous voulez, là, je tombe de l'échelle, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Yannick Agnel est quelqu'un d'absolument remarquable. Je l'ai encore vu il y a une quinzaine de jours à un repas organisé par la Fédération française d'handisport. Je suis absolument abasourdi.
Yannick Agnel, qui s'était reconverti dans le e-sport et travaillait comme consultant pour la télévision depuis sa retraite en 2016. Ses proches ne souhaitent pas s'exprimer avant la fin de sa garde à vue. Elle peut durer jusqu'à 48 heures.
Zoé Palier.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09 sur Europe 1. Les courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 606, héroïne du Citrus. Elle alterne avec réussite le trot attelé et le trot monté et elle totalise déjà cette année pas moins de 3 victoires pour autant de tentatives au trot monté, la spécialité dans laquelle elle est présentée ce soir. Venant de s'imposer avec facilité sur le parcours qui nous intéresse, il n'y a donc aucune raison pour qu'elle ne puisse pas ici doubler la mise. Notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 6, héroïne du Citrus.
Héroïne du Citrus, c'est noté. Merci Thierry Léger. On vous retrouve dans, allez quoi, une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite. Nous, on revient dans une minute avec le pressing.
À peine. Notre revue de presse avec au menu ce matin votre horoscope 2022, des amandes salées et le manoir de l'horreur. À tout de suite.
Europe 1, Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et dans Bienfait pour vous, on verra qu'il est possible de faire du sport et pas avec n'importe qui, avec des champions olympiques qui nous donnent tous leurs meilleurs conseils pour être un vrai champion.
Bienfait pour vous.
Alors à tout à l'heure, dès 11h sur Europe 1.
Découvrez l'Eurométropole de Metz à 1h20 de Paris. Venez visiter Metz, son marché de Noël et ses lumières féeriques. Une destination pour petits et grands et des idées de séjour pour toutes vos envies. Plus d'infos sur inspire-metz.com.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11, bon vendredi. Le pressing le plus matinal de France ouvre ses portes Et nous sommes bien sûr rejoints par Martin Lange.
Bonjour Blin, bonjour Julien,
bonjour,
bonjour
à Martin.
Tous.
On commence avec les unes de vos journaux. À 4 mois de l'élection, la gauche dans l'impasse, titre Le Figaro, qui revient sur la primaire proposée par Anne Hidalgo, proposition rejetée en bloc par les autres concurrents. Le jour où la primaire mornée, ajoute Libération, qui consacre sa une à la conférence de presse donnée hier par le chef de l'État. Macron en campagne, moi président de l'Europe, titre Le Quotidien. Et puis Abu Dhabi Vice, titre L'Équipe, avec en une ce duel tant attendu pour clore la saison de Formule 1, effectivement. Duel électrique entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à égalité avant le dernier Grand Prix de la saison. Voilà pour les unes, en tout cas certaines d'entre elles. Omblin, on commence avec vous.
C'est un grand classique hein, de la fin d'année. On décore le sapin en écoutant les chansons de Noël. On prépare minutieusement le plan de table pour les réveillons. Est-ce qu'on va mettre Tata ? Bah, on ne sait pas encore. On lustre nos souliers vernis, on dépoussière la boule à facettes et on jette un œil un petit peu inquiet, mais quand même plein d'espoir sur notre horoscope pour l'année qui vient. C'est la une du magazine Elle Astro 2022, ce que dit votre signe. Les planètes veillent, les amis, soyez rassurés. Ça ne vous a pas échappé d'ailleurs dans les horoscopes qui se veulent pointus et sérieux. Il est toujours question de planètes, même si le commun des terriens n'y comprend pas grand-chose. Peut-être que je parle pour moi. Et pourtant, c'est important finalement de comprendre comment ça marche. Les Gémeaux. Fabrice Lafitte, hein, oui.
Notre réalisateur.
Voilà, par exemple, amour, surveillez les passages de Vénus et vous mettez toutes les chances de votre côté, notamment, alors notez bien, entre le 24 juin et le 18 juillet.
Ah, parce que c'est précis en plus.
Voilà, ce sera la plus belle période sur le plan affectif. Oui, vous pouvez poser des vacances. La tendance des Gémeaux pour l'année qui arrive, un savoir-faire relationnel et une énergie soutenue pour avancer.
C'est tout Fabrice.
Pour les lions, c'est Uranus, mon cher Martin, qui va vous titiller au travail. Soyez prêts à ressentir cette stimulation, hein, mais sans griller les étapes. Vous devrez jouer les équilibristes entre optimisme et prudence, avec en bout de course une belle évolution. Une année 2022 pour repartir sur des bonnes bases. Julien, ami poisson, Jupiter vous permet d'espérer une belle année pour améliorer votre situation financière.
Voilà. Ah.
Message passé en direction des hautes sphères de la maison, comme vous me l'avez demandé. Il faut savoir que...
Non, c'est elle qui l'écrit, c'est pas moi.
Il faut savoir que cet astre réalise son tour autour de nous en 12 ans et c'est vous qui en profiterez. Notez vos atouts pour l'an prochain, douceur, charme, intuition. Ça, c'est tout, vous.
Oh, magnifique.
C'est incroyable.
Je suis le plus verni des trois, en fait.
Quant au Capricorne, ça va faire plaisir à notre collègue Dimitri Pavlenko, qui nous rejoint à 6h30. Vive le changement. Pluton, Jupiter et Uranus se serrent les coudes pour proposer des solutions à ce qui vous freinait ces deux dernières années. Voilà, tout va mieux en 2022. On ne sait pas si c'est vrai, mais ça ne nous empêche pas, ce 10 décembre 2021, d'espérer. L'horoscope du magazine Elle est en kiosque.
Dans
ça vous en choque, quoi.
Moi, c'est le coup d'Uranus pour Martin et moi, c'est Pluton, c'est ça?
C'est Pluton, oui.
Ouais, bon,
il y a Uranus aussi pas loin, vous rassurez, vous n'êtes jamais loin, Uranus.
Effectivement. Merci, on plus, Martin,
avec plaisir. Avec des policiers municipaux qui ont de l'humour ce matin. Des policiers désherbiers en Vendée face aux automobilistes, pardon, mal garés dans le centre-ville. Ils ont décidé de sévir en distribuant des amendes. Rien de très original, me direz-vous, sauf que les amendes en question, ce ne sont pas des contraventions, mais des fruits. Des amendes avec un A. Des amendes. Des amendes.
Ils sont malins.
Ils sont malins. Hein. Ça va vite, hein. ça fuse. Des amendes salées fournies par le magasin bio de la ville avec un mot quand même pour expliquer leur démarche. Alors je vous le lis. Hein. Cher automobiliste, nous avons constaté que votre véhicule était stationné irrégulièrement. Nous aurions pu vous gratifier d'une contravention à 35 €. Mais pour vous permettre de voir la vie rose, nous avons préféré vous remettre personnellement quelques vraies amendes salées. On aurait pu aussi vous mettre des prunes, mais ce n'est vraiment pas la saison. Quand je vous dis que ces policiers ont de l'humour, hein, c'est vrai. L'objectif, c'est évidemment de faire de la prévention avant de sanctionner, hein, et ça marche plutôt bien. Le journal Ouest France a interrogé plusieurs herbretés pris par la patrouille et qui se souviendront longtemps de ces amendes originales.
Et une méthode s'est assumée. Cette méthode, pardon, est assumée par le patron de la police locale.
Oui, tout à fait. Hein. Selon Hervé Perton, le chef de service de la police municipale, le principe est bien mieux mémorisé que si on sanctionne. L'automobiliste réagit à l'humour et ça lui évite de refaire son infraction. Évidemment, cette distribution d'amendes, hein, n'est pas éternelle, malheureusement pour les chauffards. Mais les policiers croient à une prise de conscience des conducteurs.
Les chauffards, comme vous y allez.
Oui,
ils sont mal garés.
Bon, les conducteurs mal garés, si vous préférez.
Voilà.
Et avec ces méthodes passives, hein, qui sont bien plus efficaces que le bâton, selon ces policiers.
Ça, c'est certain.
Alors, ce n'est pas la première fois que les policiers des herbiers se distinguent avec ce genre de méthode originale. En 2018, ils avaient installé dans la ville des silhouettes ressemblant comme deux gouttes d'eau à des policiers. L'objectif, évidemment, hein, faire ralentir les voitures. Ces policiers en plastique qui portaient même un nom, Dave, pour dispositif anti-vitesse excessive.
La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer.
Voilà, c'est la tactique originale de policiers vendéens, c'est à lire sur le site de 20 minutes.
C'est chouette.
Très sympathique. Merci beaucoup, Martin. On va terminer ce pressing sur une note beaucoup moins légère avec cet article du Figaro.fr, il en faut bien. Vous vous souvenez de l'affaire Jeffrey Epstein?
Voilà, et vous cassez l'ambiance.
Ouais. Mais vous en souvenez ou non?
On s'en souvient, hélas, trop bien même.
Ce milliardaire américain s'est suicidé en prison il y a 2 ans après avoir été accusé d'avoir bâti autour de lui un réseau international constitué de nombreuses jeunes filles, dont certaines mineures, avec lesquelles il avait des relations sexuelles contre de l'argent. Eh bien, depuis une semaine, se tient à New York, on n'en parle pas vraiment énormément, le procès de l'ancienne compagne et collaboratrice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, accusée d'avoir été sa rabatteuse et d'avoir tout fait pour préserver le secret de ses crimes. Des crimes qui ont eu lieu, pour certains, à Palm Beach, en Floride, dans un somptueux manoir, vaste propriété peuplée de jeunes femmes au service du prédateur sexuel. Un staff qui devait avoir un comportement irréprochable en toutes circonstances et qui devait observer à la lettre un manuel écrit par Lady Maxwell, c'est ainsi qu'il fallait l'appeler, 58 règles strictes qui ont été révélées à son procès. La première, être une tombe, évidemment. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Interdiction d'évoquer ses problèmes personnels. Les soucis de la piétaille n'intéressent pas les maîtres. Il est formellement interdit de regarder Mr. Epstein dans les yeux ou de manger ou boire devant lui. Pas de chewing-gum, évidemment, ni de small talk. En clair, on ne parle pas de la pluie et du beau temps. On se tait. Et quand on est obligé de parler, prière de le faire en bon anglais. C'est ainsi que la châtelaine avait banni un certain nombre de phrases ou de mots courants. On dit oui et pas ouais, on dit avec plaisir et non pas de problème. Et puis si on fait l'objet de critiques ou de remarques de Mr. Epstein, la réponse est toute trouvée et écrite noir sur blanc dans le manuel. Vous devez dire « c'était complètement de ma faute, je vais immédiatement changer ». Évitez également les parfums trop forts ou les lotions aftershave. Cela pourrait irriter l'odorat précieux du maître des lieux. S'ensuit une série d'instructions spécifiques à chaque pièce de la demeure, à commencer par la master bedroom, la chambre du maître où il est explicitement demandé qu'il y ait en permanence un revolver chargé sur la table de nuit et que la température n'excède jamais 16 degrés. Aucun lien, a priori, entre ces deux demandes. Dans les sanitaires, 32 rouleaux de papier toilette et pas un de moins.
Ah oui.
Et puis n'oubliez pas, l'extrémité du papier doit être pliée en V, c'est tellement plus chic. Dans la cuisine, que dis-je? Les cuisines, il faut qu'il y ait 26 boissons différentes en toutes circonstances. Champagne au frais, évidemment. Le café du matin doit inclure un pot de lait demi-écrémé réchauffé au micro-ondes pendant 25 secondes. Les plats servis à droite et desservis à gauche, c'est le béaba. Si le téléphone de la résidence sonne, dépêchez-vous s'il vous plaît. Pas plus de 3 sonneries, sinon ça devient agaçant. Pour le code vestimentaire, c'est uniforme de rigueur, pantalon bleu, chemise blanche de golf et surtout, ne mettez rien dans les poches, cela risquerait de faire une bosse qui pourrait troubler le maître des lieux. Enfin, pour conclure ce manuel, Ghislaine Maxwell a jugé bon d'écrire ceci. Smile ! Oui, parce qu'en plus, il fallait sourire.
Parce qu'en plus, il fallait sourire. On va rien ajouter. Hein. On va vous remercier. Rideau sur le pressing, merci à tous. Et Martin, on vous retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres avec Alban Le Prince.
Emmanuel Macron a présenté les objectifs de la présidence française de l'Union européenne. Elle débute le 1er janvier. Le chef de l'État a plaidé pour une régulation des géants du numérique, la réforme de l'espace Schengen, mais aussi la création d'un service civique européen de 6 mois pour les moins de 25 ans. Le nouveau chancelier allemand en visite à Paris, Olaf Scholz, reçu à l'Élysée aujourd'hui pour son premier déplacement officiel à l'étranger. Il se rendra ensuite à Bruxelles. Le choc dans le monde sportif, Yannick Agnel, double champion olympique et champion du monde de natation, interpellé et placé en garde à vue hier. Le nageur est visé par une information judiciaire pour viol et agression sexuelle sur mineur.
Europe 1. Bonjour Delphine Solière.
Bonjour Julien Pierce.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la directrice des magazines moins de 12 ans chez Bayard Jeunesse. On parle là d'Astrapi, de Pomme d'Api ou encore de J'aime lire. Magazine où à l'approche des fêtes de fin d'année, vous invitez les enfants et leurs parents à préparer des boîtes solidaires. Expliquez-nous.
Alors en fait, l'idée toute simple, c'est de faire un cadeau qui est né pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui peut être dans le besoin parce qu'elle est à la rue, parce qu'elle n'a plus les moyens d'offrir un cadeau à ses enfants ou à son compagnon. Donc l'idée, c'est de prendre une boîte à chaussures et d'y placer différents éléments. Alors à la fois, ça peut être un vêtement chaud, ou un gant, un bonnet, un petit pull, une écharpe, un produit d'hygiène ou de soins, ça peut être une brosse à dents, du dentifrice, du shampoing. Un produit alimentaire non périssable, on peut tout à fait mettre des petits gâteaux, des amandes, enfin des choses qu'on a envie d'offrir. Un loisir, un livre, un jeu de cartes, et puis on peut y mettre un petit mot. Et puis après, tout ce que vous voulez rajouter, hein, c'est, après, c'est libre à chacun de mettre ce qu'il veut dans la boîte. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir d'abord la décorer, la personnaliser, et puis de préciser si c'est pour un homme avec la lettre H, une femme avec le F, ou E avec un enfant. Ça permet de personnaliser un peu plus la boîte.
D'accord. Et une fois qu'on a terminé cette boîte, qu'on l'a éventuellement emballée dans du papier cadeau, on la met nous ? C'est qui la distribue ?
Alors, c'est la Croix-Rouge française qui a 1000 antennes réparties dans toute la France. Et on a jusqu'au 8 janvier pour apporter ces boîtes qui seront ensuite distribuées par la Croix-Rouge et qui iront trouver toutes les personnes qui vivent en précarité, qui n'auront peut-être pas eu de cadeau pour Noël.
Alors, vous l'avez dit, on peut mettre un vêtement chaud, un produit d'hygiène, un produit alimentaire, un loisir. Est-ce qu'il y a en revanche des éléments, des articles à ne pas mettre ?
Tout ce qui est périssable, en fait. C'est la seule chose, c'est de ne pas mettre, même si ça pourrait être sympa, un fruit frais ou vous voyez, quelque chose qui pourrait s'abîmer. Après, je pense que c'est un peu à chacun de soit de rajouter quelque chose. Ça peut être un petit Playmobil supplémentaire si c'est pour un enfant. Ça peut être un rouge à lèvres si c'est pour une femme, vous voyez. Je pense qu'on peut rajouter, mettre sa petite touche personnelle dans la boîte qu'on a envie d'offrir.
Quelle est l'idée derrière cette opération ? Est-ce que c'est de rappeler aux enfants favorisés que Noël, ça doit être avant tout un moment de fraternité, un moment de partage ?
Oui, alors c'est à la fois l'idée que Noël, c'est vraiment la fête du partage. C'est aussi qu'on peut être de façon très simple quelqu'un de bienveillant, une petite lumière pour les autres. Donc tout notre thème, c'est vraiment d'illuminer la vie des autres. Et puis c'est aussi les aider à réfléchir avec la tête, avec les mains, en faisant quelque chose. C'est souvent un projet familial, en fait. Donc, on voit arriver des boîtes en photo parmi nos lecteurs, des boîtes pour les petits, pour les grands. On voit les frères et sœurs qui se mobilisent. Voilà, il y a même une petite demoiselle qui a fait un tuto pour faire la boîte et elle a porté à la Croix-Rouge du 10e arrondissement des photos de son tuto pour remplir sa boîte.
Donc, vous avez déjà des retours de vos lecteurs ?
Oui, on a la chance d'avoir des lecteurs très réactifs avec qui on a une relation assez intense et qui sont très heureux de nous partager leurs photos et qui sont en fait très heureux qu'on les ait sollicités. On est même heureux pour l'instant de ce qu'on perçoit, de l'énergie de nos lecteurs pour fabriquer ces petites boîtes.
Est-ce que les enfants sont plus sensibles que leurs parents sur ces sujets ? En clair, est-ce qu'il faut les sensibiliser maintenant parce qu'après ce sera plus compliqué ?
C'est-à-dire qu'il y a chez les enfants souvent une énergie spontanée, un geste vers l'autre qui est peut-être plus immédiat parce qu'il n'y a pas le filtre. Ils ne se demandent pas pourquoi cette personne est dans la rue. Si la personne est dans la rue dans le besoin, ils ont une tendance naturelle à aller vers l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Après, c'est pas toujours stimulé. La générosité en tant que telle, elle est pas toujours une valeur sur laquelle on appuie forcément, même dans la société. C'est plutôt des valeurs de réussite, d'être le plus fort. Même quand les enfants font la liste Père Noël, ils pensent pas, comme on faisait autrefois, où on gardait une place à table pour les gens dans le besoin. Dans les listes Père Noël, il n'y a jamais un cadeau pour les autres.
Pourquoi est-ce que le groupe Bayard s'est associé à cette opération ?
Parce que ça fait vraiment partie de nos valeurs, des valeurs du groupe et des valeurs de nos magazines, des magazines de presse, mais aussi des magazines éducatifs. Et on s'est dit que c'était quelque chose qui était chouette après cette année et demie quand même assez difficile qu'ont vécu nos enfants, de les décentrer aussi par rapport à eux-mêmes et de les emmener vers l'autre, en fait. Vous voyez, tout ce qu'un enfant peut encore ressentir aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont plus malheureux que moi.
Est-ce que les enfants qui sont en train de confectionner des boîtes solidaires ou qui vont le faire pourront savoir d'ici quelques semaines ce qu'il est advenu de leur cadeau, à qui il a été donné par exemple ?
Ça va dépendre de chaque antenne. Donc je pense que le mieux est de poser la question à chaque antenne quand ils déposeront la boîte. Je pense qu'il y aura des communications, je ne sais pas si on donnera les noms, mais à mon avis, je sais que l'antenne à côté de notre bureau à Montrouge est tout à fait prête à nous dire combien de boîtes sont données à qui. On sent qu'ils sont très contents de voir arriver toutes ces boîtes. Et très content de voir aussi l'ornement qui est fait autour. C'est-à-dire que c'est touchant de voir à quel point les familles se sont donné du mal pour faire des beaux paquets cadeaux.
Merci beaucoup Delphine Solière d'avoir partagé avec nous cette belle initiative signée Bayard Jeunesse et la Croix-Rouge française des boîtes solidaires pour Noël aux plus démunis. C'est jusqu'au 8 janvier. On vous souhaite de belles fêtes.
Merci beaucoup et bonne journée
et à
vous.
Bientôt.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h et bientôt 28 minutes sur Europe 1. Demandez le programme de la prochaine demi-heure.
Omblin. Les chansons de Jeanne Moreau dans la prescription culture.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets.
Un coffret exceptionnel qui réunit plus de 200 chansons sort aujourd'hui, l'œuvre complète de la chanteuse Jeanne Moreau. C'est le choix ce matin de Stéphanie Loire.
Et juste avant, nous parlons de notre sommeil.
Oui, de si bon matin, c'est presque paradoxal. Plus sérieusement, sommeil paradoxal. On l'a tous constaté. bien joué. Voilà. On affronte quand même, et c'est sérieux, une épidémie d'épuisement général. La faute, une fois de plus, à la crise sanitaire. Comment bien dormir? On va poser la question au docteur Patrick Lemoine, psychiatre, docteur en neurosciences, dans un quart d'heure.
Et puis il y a la météo aussi qui joue sur notre fatigue, Anissa.
Ah oui, et sur le moral.
Forte pluie, neige, nuages, bref, on est en hiver.
Ah oui, c'est pas terrible hein, pour ce vendredi. Vraiment, on termine la semaine avec un temps très agité. On a 8 départements du sud-ouest en vigilance orange. Donc ça va des Landes jusqu'aux Pyrénées-Orientales. On a des vigilances pour pluie, inondation, pour crue et pour avalanche. Et puis on a 4 départements des Alpes cette fois-ci, eux aussi placés en vigilance. L'Ain en vigilance neige-verglas, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie. En vigilance orange avalanche. Ce vendredi sera donc la dernière journée, et c'est là la bonne nouvelle, la dernière journée de ce mauvais temps avant un temps beaucoup plus calme ce week-end et la semaine prochaine. Alors en attendant, aujourd'hui il va falloir prendre son mal en patience et surtout être très prudent. On a de la neige à basse altitude hein, sur tous les reliefs, notamment dans le nord-est ce matin, jusqu'à 4 cm attendu à 300 mètres d'altitude. Ce matin, prudence, c'est dans le nord-est qu'il y aura en plus de la neige des brouillards et puis de fortes pluies dans le sud-ouest, notamment dans le Pays Basque, du côté de Biarritz, où les cumuls attendus sont très importants. Au bord de la Méditerranée, on a du vent fort. Alors, le temps est plus sec, mais on a quand même de la tramontagne jusqu'à 90-100 km/h. Cet après-midi, allez, je termine par les bonnes nouvelles sur la Normandie, le Centre-Val de Loire, le Cotentin, la région parisienne et dans le sud-est, au bord de la Méditerranée. On a un temps qui redevient sec avec de belles éclaircies, mais on a toujours beaucoup de vent sur la moitié nord. Les températures, elles sont plus douces. Ce matin, on a 0 à 3 degrés dans le nord-est, forcément. Il neige, hein, donc les températures sont positives. On a 6 à 10 partout ailleurs et ce matin, jusqu'à 12 degrés sur le Pays Basque.
C'est noté. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Mais ça ne va pas monter seulement de l'inflation, je vous le garantis. Les Français peuvent commencer à faire des économies parce que la facture va être douloureuse.
Les propriétaires vont la sentir passer. La taxe foncière devrait flamber l'an prochain, près de 3% de hausse. Principal responsable, l'inflation. Et comme l'explique le président de l'Union nationale des propriétaires, la disparition de la taxe d'habitation ne va rien arranger. Débat agité hier soir sur France 2 entre Éric Zemmour et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et c'est une information Europe 1. Les comptes de campagne du polémiste passent au vert. L'argent afflue dans les caisses. Et puis, dans ce journal, la France peut-elle remporter le pari de la réindustrialisation? Dans le Nord, une usine de fabrique de jeans s'apprête à ouvrir au début de l'année prochaine.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal. Christophe Lamarre, bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Après l'inflation des prix en magasin, c'est à une autre hausse à laquelle il faut s'attendre. La taxe foncière, 32 millions de propriétaires sont concernés en France. Carole Ferry, cette flambée prochaine de la taxe foncière est directement liée à l'augmentation des prix à la consommation.
Et oui, puisque depuis 3 ans, c'est gravé dans la loi. Une partie du calcul de la taxe foncière doit prendre en compte l'inflation, ce qui veut dire une hausse minimum de 2,8% l'an prochain, peut-être même 3%, incontournable selon le premier vice-président de l'Association des maires de France, André Léniel.
L'inflation, chacun l'a subi. Et au premier rang, les collectivités territoriales. Nous avons à rénover les écoles, nous avons à accueillir dans les crèches la petite enfance, à faire face aux obligations sanitaires. Et il est naturel que nous puissions au moins travailler avec un euro qui soit constant, c'est-à-dire qui tienne compte de l'inflation.
Au total, cela devrait représenter un coût supplémentaire de plus d'1 milliard d'euros. Christophe Demerson est le président de l'Union nationale des propriétaires.
Avec la suppression de la taxe d'habitation, et ben maintenant il faut trouver des fonds, dépouiller une fois de plus les propriétaires. Mais ça ne va pas monter seulement de l'inflation, je vous le garantis. Les Français peuvent commencer à faire des économies parce que la facture va être douloureuse.
Une hausse qui sera appliquée lors de la prochaine taxe foncière, ce sera en octobre 2022.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
L'économie, il en a été question hier lors du débat entre Éric Zemmour et Bruno Le Maire sur France 2, mais on n'a pas parlé que de cela et la discussion a parfois tourné à l'invective.
Les deux hommes se sont affrontés sur la question de l'islam, de l'identité française, mais c'est sur l'histoire de France que les débats se sont envenimés. Bruno Le Maire accusant Éric Zemmour de vouloir réhabiliter le régime de Vichy responsable de la déportation de plusieurs centaines de milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas pétainiste, lui a rétorqué le candidat à la présidentielle.
Cette information Europe 1 à présent à propos des comptes de campagne d'Éric Zemmour, les caisses sont, semble-t-il, bien garnies.
C'est un démarrage inespéré de ce point de vue pour le candidat. Son parti politique Reconquête enregistrerait déjà 40 000 adhésions en plus en moins d'une semaine. Autant d'argent supplémentaire dans les caisses déjà bien remplies, Victor Chabert.
Oui, selon nos informations, Éric Zemmour a reçu plus de 2 millions d'euros de dons. Un objectif qui ne devait être atteint que la veille du premier tour selon son équipe. La collecte va donc beaucoup plus vite que prévu. Ce sont des cartons entiers de courriers avec des chèques qui arrivent tous les jours dans le petit bureau du directeur financier au fond d'un couloir du QG de campagne. Leur montant moyen est de 60 euros, mais cela peut monter parfois à plusieurs centaines, voire milliers d'euros, dans la limite des 4600 par personne fixée par la loi. Autre source de revenus, les adhésions au parti Reconquête. Lancé officiellement dimanche dernier, 40 000 cartes déjà vendues. Éric Zemmour parle là d'un succès inespéré. Prix minimum de l'inscription 30 euros. Cela pourrait donc représenter au moins 1 200 000 euros supplémentaires.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. La visite d'Olaf Scholz en France, premier déplacement du nouveau chancelier allemand depuis sa nomination. Il sera reçu aujourd'hui à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le nouvel homme fort de l'Allemagne devrait notamment confirmer l'engagement de son gouvernement en faveur d'une souveraineté européenne.
Et cette question de la souveraineté européenne, c'est l'un des thèmes qu'a abordé Emmanuel Macron hier lors de sa conférence de presse à quelques mois de prendre la présidence tournante de l'Europe.
Oui, ce sera le 1er janvier 2022, pour 6 mois, parmi les priorités du chef de l'État, la réforme de l'espace Schengen qui doit permettre à l'Europe de maîtriser ses frontières, donc de recouvrer davantage de souveraineté. Emmanuel Macron veut également accélérer la création d'un salaire minimum européen et revoir les règles budgétaires du traité de Maastricht. Attention, dossier explosif, le chef de l'État proposera leur assouplissement lors d'un sommet exceptionnel sur le sujet en mars prochain.
On parle souvent de la difficulté de relocaliser les usines en France et c'est pourtant le pari que tente un industriel dans le Nord.
Oui, cette usine doit voir le jour à Neuville en Ferrin près de Lille. Elle fabriquera des jeans à prix abordable pour des enseignes comme Jules ou Pimki. L'usine baptisée Fashion Club Denim Center emploiera une centaine de salariés. À terme, 400 000 jeans devraient sortir de ces lignes de production chaque année. Reportage Lionel Gougelot.
Là-bas, nous aurons le délavage eau et ozone.
Bientôt, dans ce bâtiment de 3000 mètres carrés, il y aura une cinquantaine de machines pour produire 2000 jeans par jour, des modèles fabriqués localement pour la marque Jules, à prix abordable 59 euros. Christian Kinen, chef de projet.
Nous sommes dans une logique de relocalisation, donc on veut vraiment démontrer qu'il est possible pour les marques de produire en France, de proposer des produits à des tarifs accessibles pour le grand public, tout en préservant leur marge finale.
Une toile de Nîmes 100% recyclée, une méthode de délavage écolo au laser. Si le coût de fabrication est ici deux fois plus cher. La marque parie sur une vraie demande de la clientèle selon Erika Geoffroy-Cadix, directrice de l'offre.
Les clients sont très soucieux de la production plus locale. Ça peut coûter plus cher sur le prix de revient, mais l'objectif c'est d'être au plus proche des besoins des clients et donc du coup de produire que ce qu'on est capable de vendre et donc ça sera rentable.
Une centaine d'emplois seront bientôt créés ici, des personnes actuellement en formation et le retour de l'industrie textile dans le Nord, c'est une nouvelle chance pour Marie-Lise.
J'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi près de chez moi. Après il y a une partie qui sera plus technique, ce sera plus vraiment la couture et les machines à utiliser. Donc moi je pense que ça peut le faire.
Et pour bien marquer leur origine made in Nord, les jeans fabriqués ici seront baptisés 5-9. À Neuville-en-Ferrin, Lionel Gougelot, Europe 1.
Alerte pluie, inondation et avalanche dans 7 départements du sud-ouest et dans 4 départements des Alpes. Dans certains secteurs comme la Haute-Garonne ou le Pays Basque, les pluies très importantes pourraient provoquer la crue de certains cours d'eau.
Les téléspectateurs de l'émission Danse avec les stars le connaissent bien. Il y tient le rôle de juré. Les amateurs d'opéra, eux aussi, le connaissent bien. François Allu, premier danseur de l'Opéra de Paris, se lance dans le One Man Show.
Une nouvelle aventure pour un spectacle qui mêle danse et théâtre complètement jeté. C'est le nom de ce stand-up qui se joue à Paris ce week-end et à Nantes la semaine prochaine. Marie Jiquel a tenté de suivre cet artiste amoureux de la scène.
Il a demandé un congé à l'Opéra de Paris, non pas pour se reposer, François Allu semble infatigable, mais bien pour danser encore et incarner sur scène les voix qui s'agitent dans sa tête.
On a à la fois des personnages qui parlent de crypto-monnaie, un peu d'écologie, on a des personnages du monde de la danse, hein, forcément.
Entre ces personnages, François Allu retrouve ses chaussons pour virevolter, des interludes pour laisser aux spectateurs le temps de rêver et lui, le temps de respirer.
J'ai toujours plus dansé que parlé, même si je suis très bavard, et c'est vrai que j'avais cette envie qui me démangeait de parler aussi et je me suis dit mais pourquoi ne pas allier les deux finalement.
En plus de soigner ses pieds, François Allu doit chouchouter sa voix.
Qu'est-ce qui est le plus dur, travailler sa voix ou travailler ses pointes?
Oh là là, travailler ses pointes, ça fait mal. La voix, je sais que c'est un outil qui est nouveau, Pour l'instant, ça ne fait pas mal. C'est juste du plaisir et de la créativité. Après, il faut réitérer, donc il y a une part de rigueur aussi, mais elle n'est pas douloureuse.
Une voix qu'il compte bien pousser. Prochain défi pour l'artiste, pas frileux des grands écarts, le chant.
Marie Jiquel, le football, Marseille renversé en Europa League. Conférence après sa défaite 1-0 face au Lokomotiv Moscou hier soir. Match nul entre Lyon et les Glasgow Rangers, 1-1. Même score entre Stuttgart et Monaco. Le match entre Rennes et Tottenham, annulé pour cas de Covid chez les Spurs, pourrait se jouer finalement mercredi prochain.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour toutes ces informations. On passe aux courses. Les pronostics du quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est en nocturne à Vincennes que se disputera ce quintet. 14 partants répartis sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres, avec un bon favori, le numéro 10, 50 Band, qui en dépit de son handicap de 25 mètres, me semble être incontournable au vu de ses dernières performances. L'opposition sera constituée par les numéros 8, Frappe Fort, idéalement engagé à la limite du recul des 25 mètres, 11, Flower by Magalou, une jument régulière qui sait démarrer, mais qui sait aussi finir ses courses à l'issue d'un parcours caché, et 14, Flya Kaluma, la plus titrée de ce quintet, mais insaisissable en raison d'une susceptibilité exacerbée. Enfin, les numéros 9, Fragonard de l'eau, 5, Fanatic Flash, 6, Fly des Andiers, et 13 Eagle Mélois compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 8, 11, 14, 9, 5, 6 et 13.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger et à demain.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'homme, journée anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour à tous.
Vous revenez, Pauline, sur le parcours d'une figure de l'ONU, un homme qui, pendant 9 ans, a été son secrétaire général. Il s'agit de Kofi Annan, dont la crise irakienne aura été l'un de ses plus gros dossiers. Une crise qui commence par un succès quand, en 1998, Kofi Annan s'envole pour l'Irak et empêche les États-Unis de bombarder le pays.
Après une dernière discussion avec le président de la République française, Kofi Annan quitte Paris pour Bagdad. Il y a urgence, l'Amérique menace l'Irak, Bill Clinton suspecte le pays de détenir des armes de destruction massive, l'ONU doit vérifier. C'est la mission de la dernière chance. Si Saddam Hussein ne coopère pas, le président des États-Unis attaquera l'Irak.
Son mandat est le suivant, obtenir de Saddam l'accès complet, libre et sans condition à tous les sites suspects. Nous espérons le succès de la mission de Kofi Annan. Mais je veux vous dire que si cette mission échoue, nous devons être prêts, et nous le sommes d'ailleurs, à agir.
En Irak, l'atmosphère est crispée. Les ambassades et les Nations Unies rapatrient leur personnel, raconte l'envoyé spécial d'Europe 1, Georges Malbruno.
Les chasseurs bombardiers américains multiplient leurs sorties en vol, suscitant l'inquiétude de la population locale. À Bagdad, l'heure est aux préparatifs, 24 heures avant l'arrivée de Kofi Annan, avec cette phrase qui revient souvent, Kofi Annan, Inch'Allah. Si Dieu le veut, le secrétaire général de l'ONU parviendra peut-être à arracher une issue diplomatique à la crise.
Quelques heures avant l'arrivée de Kofi Annan, Benoît Laporte analyse les enjeux de la rencontre.
Il faut qu'il soit ferme sur le fond et souple sur la forme. Ferme sur les principes, c'est-à-dire garantir un accès total, sans délai, sans entrave à tous les sites que les inspecteurs voudront visiter, mais à la fois souple sur les modalités. Et il est difficile d'être optimiste ce soir parce qu'on sait que Saddam Hussein n'est pas un homme à reculer facilement, surtout qu'il semble convaincu que les Américains frapperont quoi qu'il arrive.
Et contre toute attente, Pauline, un accord est signé le 23 février 1998.
Le communiqué du régime irakien tombe dans la journée. Saddam Hussein a accepté le principe du libre accès des inspecteurs de l'ONU à tous les sites jugés suspects, sans limitation dans le temps. C'est un succès spectaculaire. Kofi Annan a réussi et il doit sa victoire, dit François Clémenceau, à son art de la négociation, subtil, discret, courtois. Un homme qui écoute plus qu'il ne parle.
Kofi Annan peut donc à Bagdad féliciter Saddam pour son choix de cravate tout en restant maître de la tractation. L'Africain connaît l'art de la mise en confiance. Il est venu avec l'un de ses lieutenants arabes, l'Algérien Lakhdar Brahimi. Quand la discussion bloque, il s'efface et laisse Tarek Aziz seul au téléphone avec le russe Primakov.
Kofi Annan fera intervenir le chef de la diplomatie russe pour obtenir les concessions de Saddam Hussein. La marge de manœuvre était étroite. Il s'y est faufilé. L'Amérique accepte les termes de l'accord. La diplomatie du secrétaire secrétaire général de l'ONU a arraché un sursis à la guerre. Il n'aura pas cette réussite en 2003. Il exhortera les États-Unis et la Grande-Bretagne à ne pas envahir l'Irak. Un an plus tard, il qualifiera cette guerre d'illégale.
Merci Pauline Jacquot, c'était le jour où 5h42, dans un instant sur Europe 1, notre sommeil chahuté par la crise sanitaire.
Europe 1, la France bouge.
La France bouge, chaque jour, 13h, 14h, on découvre des entreprises, des associations, des parcours de vie d'entrepreneurs qui font la fierté de notre pays.
Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est en plein salon nautique de Paris, un secteur de la voile qui n'a jamais aussi bien fonctionné qu'en ce moment.
Et le vice-président de la Fédération des industries nautiques est notre invité.
La France bouge.
À tout à l'heure, 13h, 14h sur Europe 1.
Découvrez l'Eurométropole de Metz à 1h20 de Paris. Venez visiter Metz, son marché de Noël et ses lumières féeriques. Une destination pour petits et grands et des idées de séjour pour toutes vos envies. Plus d'infos sur inspire-metz.com.
Mieux connaître la leucémie lymphoïde chronique. Ce cancer du sang est causé par la multiplication anormale de certaines cellules. Pourquoi parle-t-on de maladie chronique ? Le docteur Agathe Vautier-Ascalou est hématologue à l'Institut de cancérologie du Gard, à Nîmes.
La LLC est une maladie chronique à la différence de la leucémie aiguë. Ce sont deux maladies qui n'ont rien à voir. La LLC est une maladie d'évolution lente pour laquelle des traitements seront mis en place qui permettront d'endormir la maladie et les patients seront ainsi suivis tout au long de leur vie.
Ce message a été préparé avec le soutien de Janssen.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon vendredi matin avec nous. Il est 5h44 et cela fait presque 2 ans maintenant que notre monde vit au rythme de l'épidémie. Nous en sommes désormais à la 5e vague. Et à cette crise sanitaire, on peut ajouter une épidémie de fatigue générale, qu'elle soit physique ou mentale. Et pour ne rien arranger, la qualité du sommeil des Français régresse. On en parle, Omblin, avec le docteur Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences.
Bonjour docteur.
Bonjour.
L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde les gouvernements des pays face à un état de lassitude ambiant. L'OMS parle même de fatigue pandémique, qui est, je cite, une réponse naturelle et attendue face à une crise de santé publique prolongée. C'est moi, docteur, ou on est tous épuisés en ce moment ?
Forcément. Et je vais vous dire, la raison remonte effectivement à il y a 2 ans. Parce que autant le président de la République a fait le job de perdre la nation en nous protégeant, en nous disant « restez chez vous », il nous a confinés. A quand même stoppé la première vague très efficacement. En revanche, derrière, l'HAS et d'ailleurs l'OMS n'ont pas fait le boulot parce qu'ils auraient dû dire immédiatement vous êtes confinés et attention, levez-vous à la même heure que d'habitude, télétravaillez aux heures de bureau et n'ayez pas peur. Alors le n'ayez pas peur, ils ont essayé, c'était pas facile parce qu'il y avait très peu de certitudes, mais en ce qui concerne les rythmes, ça le fait pas. Pourquoi ? Parce que pour dormir correctement, il faut d'une part être en sécurité, pas avoir peur des microbes, du conjoint à cause des violences conjugales qui ont augmenté pendant le confinement, peur de la faillite, peur de l'avenir, etc. Mais le gros problème, c'est ce que je dirais finalement, télétravail plus Netflix. En d'autres termes, quand vous n'avez pas un patron qui regarde sa montre quand vous arrivez en retard, que vous pouvez vous mettre au boulot à l'heure que vous voulez, eh bien, si vous êtes génétiquement du matin, vous allez vous y mettre à 4h du matin. Si vous êtes du soir, vous allez bosser jusqu'à 3h du matin. Vous allez tout décaler. Or, on sait que si on se réveille trop tôt, on va du côté de l'angoisse, de la panique. Et si on se lève trop tard, on va du côté de la dépression. Et il faut bien comprendre que dans tous les cas, il y a une dette de sommeil. Dans tous les cas, absolument. Et la dette de sommeil, ça veut dire quoi ? Fatigue. Et le tour est joué.
L'exécutif nous demande de continuer à faire des efforts. Les gestes barrières, le télétravail, hein, vous venez de le mentionner, à l'approche des fêtes, on n'arrive même pas à se réjouir car on se demande si c'est raisonnable de voir nos proches, hein, encore, comme Noël l'an dernier. Il y a un sentiment donc de déception, c'est très anxiogène, c'est répétitif. Celui Bien qui sûr. Prend finalement, c'est notre sommeil, les insomnies, mais aussi les réveils dans la nuit, enfin le sommeil d'une manière générale.
Absolument, mais par exemple, si vous avez le malheur de regarder vos mails, de chatter, d'instagrammer, de tweeter après dîner, vous bloquez la fabrication par votre cerveau d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et même si vous avez l'impression de bien dormir, en fait, vous dormez mal, si je vous enregistre. Donc on comprend bien que les écrans du soir ont pourri le sommeil. Et ce qu'il faut en plus comprendre, c'est que si votre sommeil est abîmé, amputé, votre logiciel immunitaire ne va pas être mis à jour correctement. Il a bien été montré que les personnes qui dormaient pas bien ou pas assez avaient beaucoup plus facilement le Covid et beaucoup plus de formes graves, sans parler du cancer et de toutes les autres affections. Donc c'est vraiment très important, et là encore, c'est une cause de fatigue.
Comment on fait pour retrouver un bon sommeil après tout ce qu'on vient de se dire ?
Première chose, c'est d'abord retrouver des rythmes comme avant, comme le monde d'avant. Donc on se couche comme avant, alors ça n'empêche pas de temps en temps une fête, bien sûr, et surtout on se lève à heures très très régulières. Pas d'écran le soir, à part la télé qui est permise, notamment aucun écran après dîner, pas de stress, pas de film d'épouvante. Si on a une scène de ménage, on la reporte au dimanche midi. Ou alors, si une réconciliation sur l'oreiller, ça favorise le sommeil, mais c'est une autre question. Et le matin, eh ben, on se met en route. Et pour se mettre en route, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est surtout pas de grasse matinée, parce que ça fatigue, les grasses matinées, surtout si on est du matin. C'est-à-dire si on est immédiatement opérationnel et qu'on est très ponctuel, ça veut dire qu'on est du matin. Si on reste au lit, ça fatigue. Vous voyez, moi, par exemple, je suis du matin, je me lève à 5h30. Si je fais une grasse matinée jusqu'à 6h, ça ne va pas. Je suis fatigué. Donc, on retrouve les rythmes d'avant et on remonte sa température, parce qu'il faut avoir la pêche, donc la température monte pour dormir, donc la température baisse. Donc, le soir, on prend un bain tiède sans sécher trop vite. Et le matin, douche bien chaude, bien prolongée, petit déjeuner costaud, un peu de gym, et on s'y met. Et pas de sieste supérieure à 20 minutes dans la journée. Ce qu'on oublie aussi très souvent, et c'est vrai que le confinement a abîmé ça, c'est que ce qui nous donne le rythme, ce qui nous donne le là, c'est le soleil. Hein, c'est Voltaire qui disait « le grand horloger de l'univers ». Eh bien, le soleil nous remet les pendules à l'heure, nous permet de dormir. Et donc, confinement ou pas, il faut sortir, il faut faire de l'exercice. Et si vraiment il ne fait pas beau, ben on achète une lampe de luminothérapie. Le soleil est effectivement indispensable, de même que l'exercice physique. Dans les EHPAD, par exemple, il y a eu des syndromes de glissement, des dépressions, les gens sont morts. Plus de désespoir, finalement, de désespoir, de plus avoir de visites, de plus manger avec les autres, de plus avoir d'animation. Et ça, ça a entraîné des glissements épouvantables. Et ils ont eu plus facilement, je parle de la première vague, le Covid, parce que maintenant ça va dans les EHPAD, ils sont tous vaccinés, donc c'est bon. Mais ces confinements, avec un isolement complet, ça a été épouvantable.
Merci beaucoup, docteur Patrick Lemoine, d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1 ce matin. Vous êtes psychiatre et docteur en neurosciences. Et votre dernier livre, « Docteur, j'ai mal à mon sommeil pour dormir naturellement », est paru aux éditions Odile Jacob. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous. Il est 6h10. L'essentiel de l'actualité avec Alban Leprince.
La conférence de presse d'Emmanuel Macron aura duré 2 heures. Le chef de l'État a présenté hier les priorités de la présidence française de l'Union européenne qui débute dans 3 semaines. Réforme de l'espace Schengen, renforcement de la défense européenne, mais aussi relance de la croissance après la pandémie. Les pistes de danse se vident et le resteront pendant 4 semaines. Les discothèques ferment ce matin face à la 5e vague de l'épidémie de Covid. Avec encore plus de 56 000 contaminations hier, interdit également de danser dans les bars et restaurants. 1 070 000 euros, ce sont les revenus perçus par Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. La déclaration de situation patrimoniale du président a été publiée hier au Journal officiel.
On en vient à l'actualité culturelle sur Europe 1.
Et le vendredi, c'est musique avec Stéphanie Loire.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous. Bonjour Ambline, bonjour Julien.
Vous nous présentez ce matin un coffret qui regroupe pour la première fois l'œuvre complète de la chanteuse Jeanne Moreau.
La première fois l'œuvre complète de la chanteuse Jeanne Moreau. Universal réunit plus de 200 chansons, des versions parfois inédites, près de 5 heures d'archives en DVD. Jeanne Moreau a toujours aimé chanter. Elle chante dès ses débuts à la Comédie Française et quand elle en a l'occasion, au cinéma. Parmi ses plus grands succès, un hymne à l'amour entonné avec une sensualité malicieuse que son ami, le peintre, auteur, compositeur Serge Resvani, lui a taillé sur mesure.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola.
Le tourbillon de la ville dans Julie Jim de François Truffaut. Une chanson qui lui collait à la peau, à l'esprit aussi sans doute. Une chanson qui a contribué à peaufiner son portrait de femme libre et imprenable, échappant aux contraintes de son temps. Ce tourbillon qui va lancer sa carrière de chanteuse en 1962. Après ce succès, les titres s'enchaînent sous l'impulsion du producteur et dénicheur de talent Jacques Canetti et la collaboration de Serge Resvani, toujours, qui prend le pseudo de Cyrus Bassiac. Ensemble, ils vont enregistrer beaucoup d'autres chansons.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien
comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains.
Des chansons à la modernité fulgurante qui ont la grâce de l'éphémère. Plus de 50 ans après, le charme est intact et le propos n'a pas pris une ride. Notamment quand elle chante « Où vas-tu Mathilde » par exemple et qu'elle y raconte les joies de la chasse au féminin.
Des grands lascars aux cheveux frisés et noirs, j'en ai plein ma péniche, viens donc, sois chiche. Des gars tatoués comme des panthères dont les corps musclés ont des bras qui serrent.
Jeanne Moreau était aussi parolière. L'album Jeanne chante Jeanne, publié en 1970, est une bible d'éducation libertine. Pour ce quatrième album, elle décide d'écrire elle-même les textes inspirés de sa vie d'actrice et de sa vie amoureuse.
On dit que je ne suis pas sage, que mes dents sont bien aiguisées, mes amants comme des voyages très souvent dépaysée.
Jeanne Moreau nous quittait un 31 juillet 2017 à 89 ans, mais elle reste à jamais une héroïne moderne. On peut aussi entendre la voix de Jeanne Moreau dans la réédition d'un album qu'elle avait enregistré avec Étienne Dao. Il y a 10 ans, elle enregistre Le condamné à mort, un texte du poète Jean Genet avec Dao, un album que Dao vient de rééditer pour en célébrer l'anniversaire. Jeanne Moreau y parle et ne chante pas. Sa voix est devenue grave et rocailleuse, mais elle a gagné en force et en émotion.
À présent, pour mourir, est une fin d'école.
Rappelez-nous le nom du coffret avec l'intégrale des œuvres de Jeanne Moreau.
Eh ben, je vous le rappelle, moi, ce coffret de Jeanne Moreau s'appelle « Je suis vous tous qui m'écoutez » et il sort aujourd'hui. Il comprend, Julien, 10 CD, 2 DVD, c'est en tout 200 chansons. Merci beaucoup Stéphanie Loire et à la semaine prochaine.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h56 sur Europe 1, nous sommes le vendredi 10 décembre et dans un instant, la météo, le journal et un duel.
Qui nous ramène à l'âge d'or de la Formule 1, Niki Lauda contre James Hunt, Alain Prost versus Ayrton Senna, autant de confrontations à plus de 300 km/h qui ont marqué l'histoire de ce sport. Et bien l'histoire, elle continue de s'écrire en 2021 à travers le combat acharné que se livrent Lewis Hamilton et Max Verstappen. Scénario incroyable que cette fin de saison, les deux rivaux ont exactement le même nombre de points au classement avant l'ultime Grand Prix ce dimanche. Ce sera à Abu Dhabi où l'on retrouvera celui qui nous fait vivre ces courses endiablées, celui qui les commente sur Canal+, Julien Febraud sera notre invité dans une dizaine de minutes. On écoutera ensuite votre partition, Blin.
Un trémolo dans la voix qui fait mouche et qui suscite une émotion authentique. Otis Redding qui sur scène semblait si encombré par son physique d'1m85, par ses bras, ses jambes, raide comme un piqué. La partition du prince de la soul du sud dans 20 minutes.
Anissa Dadi pour la météo. Difficile transition après Otis Redding. Oui. D'autant que cette musique a strictement rien à voir avec la météo du jour. Forte pluie dans le sud-ouest et surtout risque d'avalanche.
Alors le risque d'avalanche concerne effectivement les montagnes des Alpes et des Pyrénées. Alors il faut savoir que ce matin nous avons 8 départements placés en vigilance orange dans le sud-ouest. Il s'agit des départements placés entre les Landes et les Pyrénées orientales. Andorre est également concerné par cette vigilance. Donc on a des vigilances crues, inondations, avalanches et pluie forte. Dans les Alpes, l'Ain est concerné par une vigilance orange, neige, verglas, la Haute-Savoie, l'Isère, la Savoie pour avalanche. Sur les Pyrénées, il faut savoir que nous allons avoir des pluies soutenues toute la journée. Cet après-midi, les pluies seront très fortes sur le Pays Basque et la région de Biarritz. Avec des cumuls importants, on va vraiment suivre ça de près. On a de la neige aussi dans les Pyrénées à partir de 1200 mètres d'altitude, jusqu'à 60 cm de neige attendue en moyenne montagne aujourd'hui. Sur le reste du pays, on a beaucoup d'averses toute la journée. On a de la neige en plaine dans le nord-est ce matin. Tiens, on a l'arrière-pays provençal qui va un petit peu blanchir aussi, hein, parce qu'on a la neige qui arrive jusque dans le sud. Cet après-midi, dans le sud-est, le soleil va gagner du terrain, le temps redevient sec, mais le vent se maintient, on a de la tramontagne jusqu'à 100 km/h. Cet après-midi, ça c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que ça va se calmer. Et effectivement, je vous confirme qu'aujourd'hui sera le dernier jour de temps très, très agité. À partir de ce week-end, on va retrouver un temps plus calme avec quelques passages d'averses, un temps de saison. Aujourd'hui, ça va se calmer sur les Pays de la Loire, sur le centre, sur la Normandie et la région parisienne où on va retrouver des éclaircies. On a moins 5 degrés à Gap, moins 2 du côté de Valence, 0 à Besançon et Clermont-Ferrand, 5 à Paris et 10 à Biarritz ce matin. Il fait doux, ça grimpe 4 à 14 cet après-midi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, nous sommes le vendredi 10 décembre. Je vous souhaite à tous un excellent réveil, il est 6h. Dernier ouvert, premier fermé. Les boîtes de nuit ont encore baissé le rideau ce matin. Décision du gouvernement pour freiner la cinquième vague de Covid. Notre reporter Thibaut Hu a profité de cette dernière nuit de fête. Nous le retrouverons dès le début de ce journal. Au procès des attentats du 13 novembre, le mutisme du frère d'Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attaques, l'homme sur la défensive, n'a pas aidé les juges à comprendre les agissements du terroriste. Et puis à la fin de ce journal, des cours de violon pour lutter contre le décrochage scolaire. Une expérience menée dans les écoles des quartiers sensibles. Et vous allez l'entendre, les résultats sont surprenants.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Retour à la case départ pour les 1200 boîtes de nuit de France. Après 6 mois d'ouverture, à peine, elles ont fermé ce matin et pour les 4 prochaines semaines. Une décision actée cette semaine par le gouvernement face à la 5e vague de l'épidémie. 56 800 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Les boîtes de nuit, un lieu où le risque de contamination explose, selon l'Institut Pasteur. Plus 790% pour les moins de 40 ans. C'est 2 fois plus que lors d'une fête privée. C'était donc la dernière nuit pour les fêtards dont vous faites partie. Thibaut Hu, bonjour.
Bonjour Romane.
Ou plutôt bonsoir, puisque on l'entend, vous avez passé toute la nuit dans une discothèque parisienne du quartier de Pigalle. Ça va, vous tenez le coup ?
Oui, ça va. Ici, c'est toujours la fête, hein, mais attention, c'est surtout la dernière danse. Vous l'entendez sûrement derrière moi, il y a encore beaucoup de monde sur la piste, de la musique plein les oreilles. Les clubbeurs ont le sourire, profitent des dernières minutes d'ouverture. Mais derrière les éclats de rire, il y a quand même de la lassitude et de la tristesse.
Ouais, ça fait mal au cœur parce qu'à Paris, on vit un peu pour les terrasses, pour l'ambiance, pour les soirées, etc. Et le fait de voir les boîtes de nuit fermées, bah, c'est un petit pincement au cœur et c'est un peu triste.
On s'est dit c'est la dernière, faut absolument y aller parce que bah, on a cours demain, on a des examens, on a des devoirs, mais c'est pas grave, genre c'est la dernière, faut en profiter. Bah, sinon ça va être soirée chez soi quoi. On va faire en sorte de faire des trucs dans les petits appartements parisiens et puis c'est tout.
La fête entre amis, en famille, avec Noël qui approche, mais en tout cas pour un retour éventuel sur la piste de danse, il faudra attendre 4 longues semaines, début 2022.
Merci et surtout bonne nuit Thibaut Hu.
Bonne nuit à vous. Les boîtes de nuit qui seront indemnisées, je cite, de manière exemplaire, a précisé Emmanuel Macron. Les pistes de danse qui seront également fermées dans tous les restaurants et les bars, et ce dès ce matin et jusqu'au 6 janvier minimum.
Une 5e vague poussée par le variant Delta, majoritaire en Europe. 13 000 malades hospitalisés et plus de 2 000 en soins critiques. Son cousin Omicron, lui, serait certes plus contagieux, mais moins dangereux, selon les premières conclusions de l'Agence européenne du médicament. Et pour Jean-Paul infectiologue au CHU de Grenoble, c'est un avantage dans le combat contre l'épidémie.
La déclaration de l'agence européenne est plutôt rassurante, en ce sens qu'il semblerait que la contagion plus importante ne soit pas associée à une virulence plus importante du virus. En clair, plus contagieux, mais pas forcément plus grave. Si on va jusqu'à la caricature, on pourrait dire que tant mieux, parce que plus contagieux, ça veut dire que le Omicron va prendre la place du Delta, mais en étant moins grave. Et donc c'est tout bénéfique pour l'espèce humaine, ce remplacement.
Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble, joint par Céline Giraud pour Europe 1.
Au procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises spéciale donne désormais la parole aux familles des terroristes.
Avec d'abord le témoignage hier du frère d'Abdelhamid Abaoud, chef opérationnel des attentats. Yacine, cité comme témoin, était interrogé en visioconférence depuis la Belgique. Gladys Laffitte, vous suivez le procès pour Europe 1. Et Gladys, entre les juges et le jeune homme, l'audience a tourné au dialogue de sourds.
Oui, le jeune Belge de 26 ans a été assez réfractaire, voire sur la défensive face à la cour, qui voulait comprendre ce qu'il y avait dans la tête de son grand frère, le coordinateur des attentats. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Aviez-vous des contacts quand il était en Syrie ? Non, je ne sais pas, je ne me souviens pas, a-t-il éludé la plupart du temps. Et comme le reste de sa famille, il est sceptique à propos de la mort d'Abdelhamid, n'ayant pas vu son corps. Il a pourtant été tué par le RAID le 18 novembre 2015. Compliqué donc d'en savoir plus sur les projets de son frère. Tout juste, l'étudiant a-t-il fendu l'armure et semblé ému lorsqu'une avocate de partie civile lui a demandé ce qu'avait provoqué la perte de 2 fils dans sa famille, car Abdelhamid avait kidnappé leur petit frère de 13 ans pour l'emmener en Syrie. « Je vais répondre pour les victimes. Ma famille s'est brisée. On espère toujours le retour de mon petit frère. C'est surtout sa disparition qui nous a brisé le cœur, car il n'était pas responsable. C'est un tabou. » petit frère présumé mort en Syrie, mais cette information aussi laisse sceptique la famille Abaoud.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. 20% des exploitations agricoles, une ferme sur cinq a disparu en 10 ans. Ce sont les chiffres du recensement du ministère de l'Agriculture publié ce matin. La surface agricole du pays, elle, se maintient grâce à un agrandissement des exploitations restantes. On en parle avec le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, invité de Sonia Mabrouk à 8h13 sur Europe 1.
C'est l'un des instruments de musique les plus difficiles à maîtriser. Le violon joue également pour lutter contre le décrochage scolaire.
C'est une expérience menée depuis 2017 par la fondation Vareille avec des résultats stupéfiants sur le niveau scolaire des élèves, comme dans cette classe de CE1 en Seine-Saint-Denis où s'est rendu Laure d'Autriche.
Trois fois par semaine, cours de violon pour ces élèves de CE1. Ils reproduisent les notes qu'ils entendent, inventent des mélodies. Leur capacité de concentration à l'école s'est nettement améliorée, dit leur enseignant Olivier.
Ces enfants qui ont commencé à 4 ans ont une meilleure concentration. Ils ont un meilleur langage oral et donc oui, c'est un impact sur l'apprentissage de la lecture. Actuellement, on est sur une culture de tout écran, il faut faire des jeux vidéo. Là, on a une alternative qui nous bénéficie, si vous voulez. Je vois aussi leurs yeux qui pétillent. Ils reprennent confiance dans l'école, quoi.
Axel, enfant hyperactif de 7 ans, n'imagine plus sa vie aujourd'hui sans le violon.
Quand on va être grand, on va peut-être être un grand musicien de violon ou peut-être un chanteur. Et aussi, quand tu apprends bien, c'est grâce au violon.
Et depuis peu, les enfants, à partir du CE2, peuvent continuer le violon au conservatoire. Les cours sont financés par la fondation Vareille. 40% des élèves choisissent de continuer la musique.
Le reportage de Laure d'Autriche.
C'est assez édifiant, effectivement. Merci beaucoup, Romain Oquet, pour ce journal.
Il est 6h06, on passe au sport. Le journal des sports de Martin Lange et du foot pour commencer, Martin. Tous les clubs français engagés en Coupe d'Europe verront le printemps.
Et oui, Marseille, un seul club éliminé de la Ligue Europa, a battu le Lokomotiv Moscou hier soir 1-0. Une victoire qui permet aux Marseillais de finir troisième de leur groupe et donc d'être reversé en Europa League Conférence. Une belle opportunité de progresser pour l'entraîneur Roré Sampaoli.
On doit continuer de grandir, continuer de progresser et on doit essayer de gagner plus clairement les matchs. Maintenant, en février, on a une nouvelle compétition qui arrive. Il y aura en face aussi des très bonnes équipes à jouer.
De leur côté, Lyon et Monaco n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre Glasgow et Sturm Graz. Mais ils restent leaders de leur groupe et qualifiés pour les huitièmes. Après Paris et Lille en Ligue des Champions, ce carton plein en Europa League permet à la France d'être le premier championnat d'Europe à l'indice UEFA devant l'Angleterre. Petit cocorico donc avant les matchs couperets. Ce soir, retour de la Ligue 1, Nantes accueille Lens.
On passe au handball, Martin, et ça roule toujours pour les Bleus.
Oui, les joueuses de l'équipe de France ont écrasé la Pologne hier, victoire 26-16. Et la route vers les quarts de finale qui se dégage. Prochain match demain contre la Serbie. Notez aussi chez les hommes le match nul spectaculaire entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions. Score final 28 partout.
Un mot de tennis et Roland Garros a pour la première fois une femme comme présidente.
Oui, Amélie Mauresmo a été officiellement nommée hier. L'ancienne numéro 1 mondiale vient pour apporter sa touche, elle l'assure. Et c'est ce que recherchait le président de la fédération, Gilles Moreton.
J'ai hâte d'y être et j'ai hâte de rentrer là-dedans pour pouvoir peut-être le faire à ma façon aussi. En fait, c'est peut-être ce que disait Gilles, à moi de dessiner un petit peu ça.
Elle va donner sa touche. Voilà, c'est une identité. On pense qu'elle a, elle a le caractère, le charisme, la personnalité. C'est aussi ça qui est important dans le choix qu'on a fait.
En bref, pour finir, Martin.
Du basket et une claque pour l'Asvel, balayée par les bases de Vitoria hier en Euroleague. Du rugby avec le début de la Coupe d'Europe ce soir, le Racing 92 se rend à Northampton. Et puis au volet judiciaire, on a appris hier la garde à vue de Yannick Agnel. Le champion olympique de natation est accusé de viol sur mineur.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous, dans un instant on va conclure une saison de Formule 1 historique avec celui qui la commente chaque week-end sur Canal+. Julien Febvreau est notre invité dans deux minutes. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h10 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Julien, est un grand reporter et commentateur de la Formule 1 sur Canal+, diffuseur officiel.
Bonjour Julien Febvreau.
Bonjour Julien.
Merci d'être en direct avec nous depuis Abu Dhabi, là où va se disputer dimanche l'ultime Grand Prix de l'année. Épilogue d'une saison absolument passionnante avec ce duel au sommet entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le titre mondial va se jouer sur cette course. On va y revenir, mais avant, pour nos auditeurs qui ne suivraient pas attentivement la Formule 1, un mot sur ces deux pilotes, Hamilton, Verstappen. C'est un choc de style, un choc de génération.
Oui, complètement. C'est un choc de caractère. L'un comme l'autre l'ont bien trempé, mais ont des styles de vie, des modes de vie assez différents. On a d'un côté Lewis Hamilton, qui est une méga star, qui a fait découvrir même la Formule 1 au-delà des frontières de notre sport à travers le monde, parce qu'il est extrêmement engagé, que ce soit dans des combats politiques, dans des combats d'égalité, d'insertion, etc., qui a aussi une vie très hollywoodienne, très liée au milieu artistique. Il a des collaborations dans la mode, dans la musique. Ses amis vivent plutôt à Hollywood que sur des bords de circuit. Et puis Max Verstappen, c'est le pilote qui n'a vécu que pour la compétition depuis qu'il est tout petit. Son papa était pilote de Formule 1, l'a éduqué très sévèrement, à la dure, comme on dit, ne vit que pour le pilotage. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans sa vie, à moins peut-être les jeux vidéo, mais là aussi c'est des jeux vidéo de voiture. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas tout à fait de la même génération, ils n'ont pas le même mode de vie, les mêmes centres d'intérêt en dehors de la piste, mais ce qui les rassemble, c'est qu'aujourd'hui, c'est les deux meilleurs pilotes de la planète.
Et puis, c'est la confrontation entre un palmarès, Hamilton, septuple champion du monde, en passe de dépasser Michael Schumacher, et un jeune prodige, Verstappen, qui a débuté la Formule 1 à tout juste 17 ans. Autrement dit, à l'âge où nous autres, on était en conduite accompagnée.
Ah ben clairement, Max Verstappen, il a créé deux précédents en Formule 1, c'est-à-dire que depuis son arrivée en F1, il n'est plus possible d'être mineur pour devenir pilote de Formule 1, et il faut son permis de conduire obligatoirement. Donc ça, ce sont des jurisprudences quasiment Max Verstappen, parce qu'il a été effectivement le plus jeune à prendre le départ d'un Grand Prix, le plus jeune à signer une victoire également, et c'est vrai qu'il a battu de grands records de précocité, mais parce qu'il était déjà après, encore une fois, depuis qu'il est né quasiment, sa vie n'a été consacrée qu'à un seul objectif avec son père, devenir champion du monde de Formule 1. Et ils sont à peut-être 3 jours de réaliser le rêve d'une vie.
Ils ont 3 points en commun, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le talent, de bonnes voitures, la Mercedes pour Hamilton et la Red Bull pour Verstappen. Et le même nombre de points au classement pilote, ce qui est totalement fou après 6000 km de course depuis le début de la saison. C'est inédit, cette égalité parfaite avant le dernier Grand Prix ?
Alors, c'est arrivé une fois dans l'histoire de la Formule 1, et on vit la 72e saison de l'histoire de la F1, et c'est arrivé une seule fois en 1974 que deux pilotes arrivent au dernier Grand Prix avec le même nombre de points, mais à l'époque, il y avait 15 Grands Prix. Là, on en est à 22 Grands Prix, ça veut dire qu'en 21 courses, on a été incapable de les départager, donc on peut dire que c'est une première, et c'est effectivement incroyable de voir qu'après autant de Grands Prix, on n'est pas réussi à les départager, mais ça montre voilà, tout l'engagement et le niveau de talent qu'ils déploient, que ce soit au volant ou leurs équipes, pour préparer leur voiture pour en arriver là.
Et qui serait sacré champion du monde si ni Verstappen ni Hamilton ne marquaient de points dimanche ?
Alors, tout dépendrait des raisons pour lesquelles ni l'un ni l'autre ne marque de points. Si chacun dans son coin abandonne pour un moteur cassé, par exemple, ou pour une sortie de piste sur une erreur de pilotage, qui est très rare chez ces garçons, ce serait Max Verstappen qui compte un plus grand nombre de victoires. C'est le facteur qui les départagerait. Il en compte 9 contre 8 à Lewis Hamilton. Maintenant, il y a un dernier facteur, évidemment, que tout le monde a en tête, c'est s'ils s'accrochent l'un et l'autre, et s'il y a, selon les commissaires sportif, une volonté délibérée de l'un ou de l'autre de sortir son adversaire. Et d'ailleurs, le directeur de course de la FIA, hier, dans un document tout à fait officiel, a rappelé, comme par hasard, certaines règles du code sportif international qui dit que toute manœuvre qui va à l'encontre de l'esprit du sport, on comprend par là un accident volontaire provoqué par l'un ou l'autre, peut avoir des conséquences très lourdes, comme l'exclusion de la course ou même la perte de points de Grand Prix précédent. Et on se souvient qu'il y a un précédent, puisque Michael Schumacher, en 1997, avait tenté de sortir de la piste Jacques Villeneuve, qui est d'ailleurs mon consultant aujourd'hui sur Canal+, et Michael Schumacher, à la dernière course, avait été exclu du championnat. Donc Jacques Villeneuve était devenu champion du monde, et Schumacher avait été exclu du championnat. Ils le savent l'un et l'autre, qu'ils sont extrêmement scrutés par les instances, par les commissaires, et qu'évidemment, une manœuvre délibérée pour se débarrasser de l'adversaire en piste pourrait avoir aurait sûrement des conséquences gravissimes. Donc je ne pense pas qu'ils vont jouer à ça ce week-end.
Vous qui côtoyez les pilotes au plus près, qui de Verstappen ou d'Hamilton a le plus de pression ce week-end ?
c'est difficile. Ils en ont beaucoup l'un et l'autre. Alors, ils sont très doués, hein. C'est des bons comédiens parce qu'ils la cachent au maximum et ils nous assurent que tout va bien, que c'est un week-end comme un autre. Mais évidemment, on a beaucoup de mal à les croire. Je me dis que Verstappen, avec sa jeunesse et finalement qui n'a rien à perdre parce qu'il ne s'attendait pas à se retrouver aussi rapidement en mesure de jouer le titre mondial, c'est peut-être celui des deux qui aura le moins de pression. En tout cas, qui va prendre le plus de risques, qui est prêt à encaisser les conséquences d'un maximum de risques. S'il se retrouve derrière Lewis Hamilton, je pense qu'on peut être amené à le voir à plonger dans des virages pour essayer de le dépasser ou de l'impressionner. Il l'a déjà fait le week-end dernier lors du précédent Grand Prix. Donc, beaucoup de pression dans les deux camps, mais une acceptation du risque peut-être plus élevée chez Verstappen que chez Hamilton.
Et ce circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, il avantage quelle monoplace a priori ?
Difficile à savoir parce que pendant plusieurs années, Mercedes a remporté et les pole positions et les victoires ici. Sauf que l'an dernier, c'est Red Bull qui a tout raflé ici sur ce tracé. Mais le tracé a légèrement évolué. Il y a plusieurs virages du circuit qui ont été complètement revisités. Donc ça rebat un petit peu les cartes. Et encore une fois, les deux monoplaces ont été tellement proches l'une de l'autre en performance pure toute l'année qu'il devient difficile, circuit après circuit, de vraiment donner une tendance. Et certaines sont parfois complètement remise en cause dès les premiers essais. Voilà, réponse complètement indécise et difficile à vous donner pour l'instant.
Rendez-vous donc au premier virage dimanche à 14h sur Canal+, mais pour mettre un point final à cette saison palpitante de Formule 1. Merci Julien Frébreau de nous avoir donné un avant-goût de cette course qui restera quoi qu'il en soit dans l'histoire, et plus largement merci aussi pour la qualité de vos commentaires et des retransmissions. C'était à n'en pas douter l'une des raisons du regain d'intérêt des Français pour ce sport. Bonne journée et à très bientôt.
Merci infiniment, à très bientôt.
Vous restez avec nous, la partition d'Otis Redding à suivre.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h20 sur Europe 1, les principaux titres avec Alban Le Prince.
Ça y est, les clients des boîtes de nuit ont déserté les pistes de danse, les discothèques contraintes de fermer pendant 4 semaines face à la flambée de l'épidémie de Covid. Il est également interdit de danser dans les bars et restaurants. Après l'OMS, l'Agence européenne du médicament tente à son tour de calmer les inquiétudes sur le variant Omicron. Les cas détectés dans l'Union européenne semblent légers. Et puis l'Union européenne, justement, dont la France prendra la présidence dans 3 semaines. À cette occasion, conférence de presse d'Emmanuel Macron hier qui a présenté ses priorités, relance, puissance, appartenance.
On termine avec votre partition, Omblin, consacrée ce matin à un homme qui a disparu le 10 décembre 1967 dans un accident d'avion. Otis Redding n'avait alors que 26 ans.
I've been loving you too long.
Star du label Stax Records à Memphis, Otis Redding est l'un des plus grands représentants de la soul sudiste. 5 ans de carrière, à peine 3 ans de succès.
En 1967, sa musique entre dans toutes les maisons américaines.
Et pendant l'été, pendant le Summer of Love, il se produit sur la scène du festival de Monterey, en Californie.
La song is a song that a girl took away from me. Good friend of mine. This girl, she just took this song. But I'm still gonna do it anyway.
Il dit cette chanson, c'est une chanson qu'une fille m'a prise, une bonne amie à moi. Il fait référence à Aretha Franklin. Cette fille a pris cette chanson, mais je continue de la chanter quand même.
What you want, honey, you got it. What you need, baby, you got it. All I'm asking for the respect that I can hold.
À Monterey, Otis Redding se produit pour la première fois devant un public essentiellement blanc.
Il a bien conscience que pour séduire cette jeunesse américaine, consommatrice de rock, il va lui falloir un succès pop. Après une tournée européenne au mois d'août et une nouvelle série de concerts en Californie, Otis Redding est épuisé, ses cordes vocales sont abîmées. Il se repose à Sausalito, dans la baie de San Francisco, au bord de l'océan Pacifique. Lui viennent alors les premières paroles d'une chanson. Il appelle son complice Steve Cropper, le guitariste du groupe The MGs, le groupe studio du label Stax. J'ai un tube. J'arrive tout de suite.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
Otis Redding enregistre cette chanson lors de deux séances, le 22 novembre et le 7 décembre en studio à Memphis.
Il joue sur une guitare rouge vif, bon marché, balafré. Il met sur bande ce qui sera son tout dernier enregistrement de Dock of the Bay.
Et parce qu'il disparaît peu de temps après, il existe des légendes autour de cet enregistrement.
Autour des sifflements, est-ce parce qu'il n'avait pas terminé d'écrire les paroles? Lorsque les grandes lignes de Dock of the Bay sont déterminées, les autres musiciens des MGs les rejoignent. La séance se termine par un « c'est dans la boîte ».
I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, it looked like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit. At the dock of the bay.
C'est bien Otis Redding hein, à la fin de cette chanson qu'on entend siffler. Aucun doute là-dessus, les rumeurs sont fausses qui disaient que c'était quelqu'un d'autre. The Dock of the Bay, ou ce qui aurait pu être un nouvel élan, un nouveau départ dans sa carrière, enregistré juste avant son décès le 10 décembre 1967.
Merci beaucoup, Omblin. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.